Poésie chronique.
Contre les boutons et les points noirs, la solution, c'est d'avoir
un parti comme le nôtre, qui est un parti éminemment démocratique.
Ah, c'est Vizir.
Vizirex diffuse Vizir au cœur du linge. Avec ses agents désincrusteurs, il liquide la saleté la plus tenace.
J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zay, 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 zay.
Poésie chronique.
Message introductif. Je souhaite, par ce message introductif, rappeler aux gens qui se plaignent de donner une partie du fruit de leur travail aux chômeurs, aux pauvres, aux handicapés, aux lépreux, aux malades mentaux et autres racailles, qu'une semaine comporte 168 heures et qu'ils n'en bossent que 35, 50 pour les moins fainéants d'entre eux, et que cela constitue moins d'un quart de leur disponibilité. C'est peu. Leur rappeler également que les allocataires du RSA ont beau avoir des écrans plats, les consoles de jeux dernier cri, des privilèges de classe et de la drogue à profusion, la télévision diffuse la même dope partout et que lors des pénuries de shit, d'héroïne ou de colle, c'est la même galère pour tout le monde. Voilà. Dans les dents, la classe moyenne laborieuse de droite. Je suis très, 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 très colère. Ouh là là, vraiment très, très. Ça fait du bien de le dire. Alors je le redis, très, très colère. Bienvenue dans le livre.
Fabien Drouet est un pseudonyme. En réalité, je m'appelle Fabien Drouet. C'est le pseudonyme que mes parents ont choisi de donner à un de leurs enfants. Couplé au nom du père adoptif d'un ancêtre d'origine inconnue et quelque part aléatoire. À la CAF, on m'appelle 336-2631-B, dans le bus fraudeur, au rugby numéro 10. Mon fils, lui, m'appelle papa. Et moi, je m'appelle moi-même, ou bien je, quand j'ai suivi d'un verbe. Mais je vais être encore un autre pseudonyme. À Oran, Hadji m'appelait Bouali. Un jour, une femme m'appela bébé. Une autre, gros connard. Au foot, je suis numéro 6. Dans un film, on m'appelle René. À l'hôpital, le jeune homme de la chambre 202. Tandis qu'au bureau, on ne m'appelle jamais. Et dire que tout ça aurait parfaitement pu tomber sur moi.
Bonjour et bienvenue dans Poésie Chronique. Nous sommes avec Fabien Drouet, comme vous l'avez compris.
Tout à fait.
Bonjour Fabien.
Bonjour.
Kelly Espalargas.
Bonjour.
Dont vous avez déjà entendu la chaude voix dans des émissions précédentes. Catherine.
Bonjour.
Catherine Heilmann, dont nous lirons des textes à la fin de l'émission. Et évidemment, Trevor Rêveur.
Bonjour.
Et puis maintenant, on va continuer les lectures. Hier soir, j'ai vu José Bové. Très sympa le mec, hein. Bon, il parle quand même super fort et c'est un peu usant, mais contrairement à moi, qui parle doucement, il raconte pas que des conneries. On s'est fait un McDo. C'était dégueulasse, hein. Mais on avait trop envie de voir ce qu'il y avait comme cadeau cette semaine dans le Happy Meal. Comme le dit Sébastien Orwell, un ami d'enfance, la lutte n'empêche en aucun cas la curiosité. José m'a évidemment fait promettre de ne rien dire. À personne, hein. Et j'ai juré sur la vie de Christian Estrosi que je serais muet comme une tombe. Ce qui était trop drôle, vraiment, vraiment, vraiment trop drôle, c'est qu'en mangeant notre hamburger, José et moi, on s'en est foutu plein la moustache. Oh là là, oh. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Et en rigolant, ça faisait sortir du ketchup par notre bouche et même par nos trous de nez. C'était vraiment génial. Quand on a fini de manger, on était tellement heureux de ce moment partagé qu'on s'est dit que la soirée devait continuer. Alors quand on a vu Ronald McDonald en train de composer les codes des toilettes avec José, on s'est regardé et on n'a pas eu besoin de mots pour se comprendre. C'est José qui l'a buté. Moi, je me suis contenté de démarrer la voiture, de conduire le plus tranquillement possible et de rire comme un connard. On a beaucoup moins ri quand on est arrivé à la maison et après avoir goûté une petite dizaine de rhum arrangé par mes soins excellents, on s'est décidé à ôter le masque du cadavre. Patricia Cass, putain! Patricia Cass! C'est ce que José a dit, la voix chevrotante et le regard au plafond. Je nous ai resservi un verre, un rhum piment coco, pour pour consoler. Décidément, les temps sont confus.
Dans une autre vie, je suis certain que j'étais charpentier. Les plus puissants, les plus riches, en somme les véritables profiteurs du système, m'appelaient, me proposaient contre travail des caisses d'or massifs. Des valises remplies de trésors et de bijoux si brillants que l'étoile du berger en personne en crisait de jalousie. Des sacs de rando, de luxe, remplis de victuailles certifiées bio circuit court et débordant de vin d'Italie, à la robe si ample qu'elle aurait fait rougir un mort et changer les bigots de tout poil en hédonistes convaincus. Et il m'offrait des femmes. Évidemment. Des dizaines, des centaines, des milliers de femmes. Des femmes de toutes les corpulences, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tous les bords politiques. Des femmes arborant tout type de fesses, de hanches ou de poitrines. Oui. Les plus puissants, les plus riches, en somme les véritables profiteurs du système, m'appelaient. M'offraient tout cela contre la restauration des charpentes de leur propriété. Il faut dire que restaurer les structures boisées des châteaux, des yachts, des bâtiments de rues entières, des palais immenses, n'est pas mince affaire. Oui, mais tout cela, je le refusais. Préférant restaurer les charpentes des petits théâtres, les toitures de bâtisses simples, fruit du labeur d'un ouvrier ouascalien, par exemple. Et à mes heures les plus sociales, celles des sans-abri. J'étais comme ça dans une autre vie. Une sorte de charpentier des bois, ou, si vous préférez, le Robin des charpentes. Je travaillais le jour, je travaillais la nuit. En tout et pour tout, il me restait 3 doigts. Mais jamais je ne me plaignais. Ni du vent, ni du temps, ni des échardes, ni des impayés. Cette autre vie, bien remplie, et dont je pense pouvoir tirer grande fierté, m'a, me semble-t-il, dégoûté de tout travail manuel. Alors, dans cette vie-là, celle d'où j'écris, me sentant plus proche du blabla que du concret des charpentes, j'essaie de compenser. En écrivant le mot « ouvrier », en écrivant le mot « écharde », en écrivant le mot « toiture ». Mais à vrai dire, rien n'y fait. Dans cette villa, je brasse du vent. Peut-être que simplement, je me repose.
Je suis en train de boire un apéro avec Didier Raoult. Je pensais que ce serait sympa, mais finalement, il me laisse pas en placer une. C'est chiant. J'ai beau avoir des compétences footballistiques conséquentes, il m'appelle gamine. Même quand la discussion tourne autour du futur de l'Olympique de Marseille. J'ai jamais croisé un connard pareil. Pourtant, je fais du rugby à Bron. J'en ai fait pendant 2 ans. Et il y avait 2 CRS dans mon équipe. Il m'est aussi arrivé un soir d'automne pluvieux de boire quelques pintes de bière brune artisanale avec un ancien ministre de l'Intérieur dont je ne peux dévoiler le nom sous peine de me faire emprisonner dans les geôles de la République. J'en ai rencontré des grosses merdes. Mais franchement, et désolé si je me répète, j'ai jamais croisé un connard pareil. En plus, il me met la musique toute pourrie, pas en panique, puis Mireille Mathieu en duo avec le sosie vocal de Johnny Hallyday, sud, faire son karaoké, dit jouer de plein de bouleaux. Fait beaucoup. Quel connard. On dirait un préfet parisien, voire un dictateur africain, ou même des Balkans, tellement qu'il est con. Malgré tout, je tâche de prendre la soirée du bon côté. Didier est tellement bavard et omnibulé par ce qu'il raconte que c'est moi qui ébullisse qui se bouteille du chantier de 2012 et manger toute ta boîte de gaufrettes bicoa crème fromage. Tant pis pour lui.
C'est en mai 1964, un vendredi si mes souvenirs sont bons, que je rencontre l'homme le plus grand du monde. Il s'appelle Zhao Liang. Il est chinois et ne parle que le mandarin. De mon côté, je maîtrise uniquement le français. Le début de notre rencontre est donc poussif, mais très vite, quelque chose passe entre Zhao et moi. Quelque chose de puissant. Je le sens. Son regard m'appelle et son œil gauche cherche à me dire un truc. Au bout d'un moment, une heure et demie environ, je finis par comprendre, par un hochement de tête lui signale que j'accepte son invitation et commence à grimper. L'ascension de Zhao est rude et parsemée d'embûches. 3 jours, 3 nuits. Éreinté, mais heureux, comme un gosse, j'arrive au sommet, m'y assois un moment et m'éponge le front. La trêve est de courte durée puisque Zhao Liang, Sif et d'autres enfants rappliquent. Bien plus dégourdis que moi, ils parviennent au sommet en moins d'une heure. Là-haut, éreintés mais heureux comme des gosses, nous nous amusons et rions. Rions de joie à tue-tête, longtemps. Puis, une fois considéré que nous avons suffisamment ri, nous décidons de nous atteler à la construction d'une cabane. Zhao, en silence, nous fait passer les outils sur lui, là-haut. Il fait frais. Je sens qu'une communauté est en train de se former, de se souder. Et le créole que nos tentatives d'échange ont créé est en passe de devenir notre langue officielle. Plus tard, une fois la cabane construite, l'enfant d'origine irlandaise suggère que nous nous munissions de quelques poules et que nous leur aménagions un chouette espace. Grâce à elles, dit-il, et si elles ne sont pas trop stressées, nous pourrions partager de formidables omelettes et pourquoi pas nous essayer au clafoutis maison. 2 ans plus tard, dans notre hôtel flambant neuf, nous accueillons les premiers touristes américains. Ces gens-là sont imbuvables. Ils parlent au personnel comme à des merdes de chiens, mais ils ont le mérite de ne pas sourciller quand les serveuses malgaches leur annoncent que le verre d'eau plate leur coûtera 1 200 $. Aujourd'hui, j'ai 12 ans. Je suis à la tête de la 12e fortune mondiale. Et je conférence dans le monde entier. En somme, je suis devenu un exemple. Et la preuve par 3 que, pour qui se fait violence, pour qui se bouge un peu, le cul, et s'en extrait les doigts, l'ascension sociale est bien plus qu'un mythe.
Ce matin, un hélicoptère du CSC, Centre statistique des cieux, a lâché sur la terrasse du café de la Poste une pluie multicolore de confettis. Tandis que les haut-parleurs de l'engin à hélice crachaient une musique festive, des enfants, habillés pour l'occasion, dansaient autour de moi en chantant mes louanges. Leurs aînés, répandant à mes pieds, le sang de 3 juments sacrifiés en mon honneur. J'ai dû paraître bête, idiot, débile, stupide, corneau, cloche et crétin. Mais j'étais loin de penser à voir ce matin à 9h04 allumer ma 100 000e cigarette. Mes problèmes cardiaques et respiratoires, la toux sèche de mon fils, mes dents noires et creuses, la camarde qui, probablement, gagne en avance sur l'heure de notre rendez-vous. Ma difficulté grandissante à faire affluer rapidement une grosse quantité de sang vers ma verge ne sont rien à côté de la joie éprouvée ce matin lors de cette fiesta d'enfer dont j'accepte humblement de payer le prix.
On passe maintenant à un enregistrement d'un texte qui s'appelle « Femme totale » et qui est dit par un comédien.
Tout à fait, un comédien stéphanois qui s'appelle Romuald Bailly, que je remercie.
Merci Romuald.
Quand je pense qu'il y a quelque part sur cette planète une table de ping-pong en parfait état, avec juste à côté deux raquettes plus deux de rechange au cas où, un lot de cinq balles neuves. Quand je pense que cette table de ping-pong est au centre d'une salle chaleureuse et immense, mais pas au point d'en devenir austère, une salle qui a su conserver la douceur des soirées de printemps en zone tempérée. Quand je pense que dans cette pièce toute faite de bois mais sans trop de poussière, il y a de l'air mais pas un pet de vent, que dans cette pièce il y a une femme absolument superbe, sublime et très belle, jolie aussi, classe, charmante, drôle, intelligente, qui ne parle que l'italien et chante merveilleusement, un sacré cul, des petits seins énormes, un truc de fou, une chevelure noire d'ébène très courte, longue et dorée, parfaitement blonde, une femme rousse gigantesque à la peau noire, rose clair, marron, terre de sienne et brûlée, ocre jaune d'une blancheur très sombre, bien dodue, presque rachitique, puissante, douce, forte, discrète, chétive et sacrément balèze, bavarde, à l'écoute, sans gêne un peu trop cérébrale, bien dans son corps et dans sa tête, au complexe maladif et touchant, une femme imberbe, poilue, un peu, beaucoup, pudique au point de ne pas hésiter à montrer sa chatte et sa bite pour faire rire les copains. Oui, quand je pense qu'il y a, là-bas, cette femme avec qui, quand le score en serait à 20-20, nous déclarerions pile en même temps 2 points d'écart. Ça nous ferait sourire en même temps. Nous en souririons donc. Puis, un peu plus tard, à 132-132, nous nous mettrions carrément à rire de l'interminabilité de notre partie, ce qui rendrait la femme et moi encore plus belle et splendide à mes yeux, inondée par une émotion frôlant l'absolu, une espèce de mélancolie joyeuse, une ferveur sereine, calme, une joie totale empreinte d'une lourde dépression. Je me dis qu'il y a encore de belles choses à vivre et qu'il nous restera toujours des trésors non référencés sur Internet, sans valeur aucune mais tellement précieux. des trésors sur lesquels la loi du marché ne s'applique pas. C'est encourageant.
Salut, c'est Estelle. Je voulais juste te dire que ce que tu m'as fait vivre cette nuit, je l'oublierai jamais. C'était magique. Et là, je suis encore dans notre monde à nous deux. Ton odeur, ta force, ta douceur. J'arrive pas à en sortir. Je me sens libre, légère. Je savais pas qu'on pouvait faire l'amour comme ça, c'est... sans limite.
Excusez-moi, Estelle. Je pense que vous vous êtes trompée de numéro.
C'est pas José ?
Non, c'est pas José.
Et dire que le soleil a parcouru 149 milliards 597 870 700 mètres pour venir éclairer cette boîte vide Domino's Pizza.
La première fois que j'ai croisé Éric Dupond-Moretti, c'était à Paris, le jour des auditions pour les valseuses, en 72, en novembre il me semble. Ce qui ne nous rajeunit pas. Très rapidement, j'avais remarqué chez lui une force de vie digne de celle des plus grands mammifères marins. Dans la salle d'attente, il avait fumé encore plus de cigarettes que moi et il les enchaînait avec la régularité hors norme d'un « bonjour hein » de boulangère. Une bonne dizaine en 40 minutes, dont il recrachait la fumée, tantôt sur l'enfant de 3 mois venu tenter sa chance pour le rôle du bébé dans le train dont la mère se fait tripoter les seins, tantôt sur l'asthmatique à la peau marron foncé qu'on se demandait bien ce qu'il foutait là. Sans surprise, il avait décroché le rôle de Depardieu, tandis que de mon côté à l'écran, j'incarnais Miu Miu. 1972, novembre, un mardi si mes souvenirs sont bons. C'est il y a plus d'un demi-siècle et depuis, les choses ont changé. Éric est avocat, garde des sceaux. Et moi, j'écris des textes au passé et les publie sur Facebook, au lieu de faire la vaisselle. D'envoyer mes papiers de sécu pour être enfin remboursé. Merde, tu vas te bouger le cul, oui ! De préparer un attentat ciblé, bref. De vivre le présent comme il se doit. Comme un cadeau de chaque instant.
Tout démarrera par une énième soirée solo. J'ai préparé une super playlist. Du punch, bien traître comme on l'aime. Des drogues en tout genre et la déco. À 21h, pile, la soirée commence. Je me mets à danser. À un moment, je me propose un peu de cocaïne. Une fois n'est pas coutume, j'accepte. J'ai l'impression de mieux m'exprimer, de mieux danser. Je me dis « Waouh, tu danses vachement bien !» Je réponds « Oui, je sais, je danse vachement bien. » J'apprécie ma franchise et me demande mon prénom. Mon prénom aussi me plaît. Décidément, c'est une bien chouette soirée. Je demande qu'on mette Amy Winehouse. J'accepte avec plaisir. Je me réinvite à danser. Et cette fois-ci, je danse plus serré, plus collé serré. Tout à coup, et sans que je m'y attende, je me dis, j'ai très envie de m'embrasser. Je m'embrasse. Décidément, cette soirée est très cool. Mais dommage. Les voisins viennent sonner et menacent d'envoyer les flics. Je finis mon verre, j'arrête la musique. Je prends mon numéro. Puis je me mets dehors. 3 jours plus tard, je me revois. Je suis content. J'ai l'air content, moi aussi, même si quelque chose me trouble. Je marche, main dans la mienne, dans les rues d'une ville que je trouve de nouveau magnifique. C'est beau, toutes ces lumières. Oui, c'est beau. Je suis content. J'ai l'air content, moi aussi, mais le trouble persiste. Alors, 2 jours plus tard, je m'écris une lettre d'adieu. Je la lis. Je suis d'accord sur toute la ligne. Je me sépare. Tout démarrera par une énième soirée solo. J'ai préparé une super playlist. Du punch, bien traître comme on l'aime.
Hier soir, Gérald Darmanin est passé à la maison. Je l'aime pas trop, mais c'est un ami d'enfance. Et j'ai pour habitude de me plier aux règles usuelles de l'amitié d'enfance. Je lui ouvre la porte, je lui propose d'entrer, lui demande « Hey, comment ça va ?» décline la liste de toutes les boissons alcoolisées présentes à la maison, puis lui montre le canapé d'un geste de la main, tout en lui proposant de s'y asseoir. Gérald est féru de jeux vidéo. Hier, il en a apporté un. Un qui tourne sur ma PlayStation 8. Un jeu dont le but est de défoncer à coups de barre à mine un maximum de racailles progressistes. Gérald les surnomme les islamo-gauchistes. On a joué toute la nuit. Son score ? 17 540 925 points. Soit autant d'ennemis politiques liquidés. Je comprends mieux maintenant que le président de la République n'ait pas pu se passer d'un homme de sa trempe à l'intérieur. D'ailleurs, tiens, en parlant d'intérieur, vous savez ce qu'il me tend au moment de l'affichage des scores ? Une matraque. Et le voilà qui se lève. Et le voilà qui se met à hurler, à m'ordonner de lui glisser entre les fesses. La matraque, bien sûr. Tu me la mets, illico ! Et tu chantes des slogans de la manif pour tous en me la mettant. C'est un ordre. Je dis non, j'ai pas envie, Gérald. Brusquement, il change de technique. Se tortille sur le canapé tel un serpent charmé. Un papa. Une maman. C'est bon pour les enfants. Parce que c'est un ami d'enfance. Et parce que je suis fidèle en amitié d'enfance. Je la lui mets. J'aurais tout de même apprécié un petit merci.
Ouais, c'est pas la politesse qui l'étouffe, hein, Gérald. Si tu nous écoutes d'ailleurs, sache que c'est fait en toute amitié. Hein. Et voilà, on va écouter maintenant un enregistrement. Donc toujours par ce comédien stéphanois.
Oui, Romuald Bailly.
Très bien. Donc d'un texte qui s'appelle « Cher Alfred ». Écrit par notre cher Fabien Drouet.
Cher Alfred, je t'écris de Villeurbanne où je me fais chier comme un rat mort. Je regarde 2 minutes un film et le film m'ennuie, quel que soit le film. J'espère que tes vacances à Chypre se passent bien. Hier, j'ai été radié du RSA, ce qui augure de prochains mois très difficiles. Mais ne crois pas que je t'écris pour te demander quoi que ce soit. Tu as raison quand tu dis que du travail, il y en a. Le paquet de cigarettes a encore augmenté. 15 euros tous les 2 jours... Ça fait 225 euros par mois. Mais tu as raison sur ce point aussi. Décidément, tu as souvent raison. Je n'ai qu'à arrêter de fumer. J'espère que tes vacances à Chypre se passent bien, que tu profites à fond. de l'argent que tu as gagné en vendant des prêts bancaires à 8,6% à des ménages surendettés. Malgré ce que les jaloux en pensent, le cœur de ton travail est éminemment social. Alors profite. Sache que je ne te demande rien. Le bonjour à Cathy, à Ignace, à Lola. Quelle chance ils ont de te connaître et de te fréquenter. Si jamais, Fabien Drouet, IBAN 97434358000, BIC La Poste 334X.
Si être révolutionnaire consistait à boire des cafés, à rater ses trains, à écrire au bic noir sur une feuille A4, à fumer plein de clopes, à se perdre aussi facilement en ville qu'à la campagne, à perdre régulièrement ses affaires. Si être révolutionnaire consistait à embrasser son fils, à tenir sa main chaude sur la route de l'école, à donner 2 euros à un clochard de temps en temps, à vivre chez sa grand-mère, à ne pas payer de loyer, à reverser son RSA au bar-tabac restaurant-librairie. Si être révolutionnaire consistait à publier des textes sur les réseaux sociaux par amour du partage et de la gratuité pour me shooter au like, à aimer le piment, à ne jamais regarder de télé-réalité. Si être révolutionnaire consistait à rêver de couper le zizi de Zemmour avec une huître de bousigue pour lancer le morceau aux olisèbres du zoo de Zanzibar en Tanzanie et à signer à la pointe de mon huître d'un Z qui veut dire nazi. Si être révolutionnaire consistait à atteindre le point Godwin dans un texte divers, à penser que c'est drôle que Godwin littéralement signifie victoire de Dieu, consistait à se satisfaire quelques secondes de cette pensée pourrie et inutile. Si être révolutionnaire consistait à voir trouble, à aimer le poulpe, peut-être y aurait-il, au rayon déco de Lidl, du Lidl d'en bas de chez mamie, un poster géant de ma gueule, avec écrit en lettres capitales « Fabien Drouet, fidèle soldat de la Révolution ».
Ce matin, j'ai croisé Pascal Praud. Mais si, vous savez, le mec de CNews, qui sera jugé en 2046 lors du procès Bolloré pour incitation au fascisme, qui sera relaxé faute de preuves tangibles et qui retournera bien gentiment commenter des matchs de football. Oui, lui, le mec qui proclame que le problème principal de nos jours, c'est qu'on ne peut plus rien dire parce que les médias dominants sont tous aux mains de raclures islamo-gauchistes et qui, dans le même temps, dit de la grosse merde sur l'une des chaînes d'info en continu les plus regardées de France. Je l'ai croisé ce matin. Je venais de poser mon fils à l'école, d'embrasser sa joue fraîche, de lui souhaiter une bonne journée. Et là, l'horreur. Pascal Praud en train de fouiller les poubelles du quartier à la recherche de polémiques susceptibles de faire grimper son audience et de faire réagir ses invités d'extrême droite. Moi, j'ai le temps. Je me dis, j'ai le temps. Alors, je me cache un moment derrière lui. Et lorsqu'il a la tête proche d'une poubelle bien dégueulasse, je le chope par les cheveux et lui fais bouffer le contenu de la poubelle. Normal, quoi. On aurait tous fait ça, je pense. Mais quand je me retourne, il y a tout plein de caméras et un envoyé spécial très jeune qui commente la scène en direct en incitant les téléspectateurs à apprécier le comportement des islamo-gauchistes quand on les met face à la véritable liberté d'expression. Je me dis, je me suis fait avoir. Et je crois pas si bien dire parce que celui que je pensais être Pascal Praud n'est en réalité qu'un comédien afghan sans papier que la production a loué le temps de cette caméra cachée. Quelqu'un crie « C'est dans la boîte !» Et merde, je me dis. Et merde. Vous êtes bien dans Poésie Chronique. C'était une émission consacrée en grande partie à Fabien Drouet. C'est une émission d'ailleurs, parce qu'elle continue. Fabien Drouet, on peut retrouver ton travail sur des plateformes quelque part?
Alors, on peut retrouver une partie de mon travail dans deux livres. D'accord. Déjà, qui s'appellent Je sous-signé, c'est des fausses attestations de sortie.
Ouais, c'est hyper drôle ça.
Voilà. Ouais, je trouve aussi. Non, c'est...
Non, mais c'est hyper drôle.
Voilà, un petit livre joli aux éditions... enfin, je veux dire joli, l'objet est très joli. Aux éditions La Boucherie Littéraire, donc je sous-signais. Et un autre livre assez différent qui s'appelle Sortir d'ici et qui est paru aux éditions Les Étacs. Et autrement, je publie pas mal de textes par Internet sur notre réseau bleu préféré.
D'accord, sur le réseau social, ouais. Et c'est Fabien Drouet, Fabien comme Fabien, et Drouet comme Drouet.
Exactement.
Parfait. Donc si vous voulez retrouver cette plume à la fois drôle et fine et acerbe parfois, pas très violente, hein, puisque voilà, tuer Pascal Pro ou enculer Gérald Darmanin, c'est pas extrêmement violent par rapport à la politique ou au discours.
D'autant plus que le réseau bleu, ça fait un peu les Républicains.
Ouais, oui, ouais, tout à fait, ouais. En tout cas, voilà, on n'avait pas réussi à ne pas dire de gros mots. En tout cas, on vient d'en dire plusieurs en quelques minutes. L'émission continue avec une chronique de notre célèbre et fameuse chroniqueuse Kelly Espalargas, que vous pourrez retrouver sur scène quand toute cette grande pandémie sera terminée. Voilà, elle
nous
donne le plaisir de nous accompagner aujourd'hui par sa voix chaude.
Ben, merci de m'accueillir, ça fait du bien d'être là.
Comme une fleur. On t'accueille comme une fleur.
Avec grand plaisir, c'est ma toute première chronique. Voilà, je m'entraîne
c'est
à.
Ma toute première fois.
Voilà. Donc, je me suis entraînée une première fois sur, sur Instagram. J'ai fait une vidéo. De ma toute première chronique.
Toute première.
Et donc, vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur mon Instagram, qui est _lox. Je fais une petite pub.
Ah, vas-y. _lox.
LOKS.
Ok.
Comme Kelly Kellox. Et donc, c'est la deuxième. C'est la deuxième chronique. Et donc, j'ai appelé mes chroniques isolées, mais pas muselées. On aime. Hein.
On voit ce que tu veux dire.
On aime. Ok, vous êtes prêts? Bon, maintenant qu'elle est enfin terminée, est-ce qu'on peut enfin déclarer 2020 l'année la plus pourrie du monde? Même si tout n'a pas été pourri. Non, pas le 1er janvier. On était si inconscients ce matin-là. C'est quand on a décuvé que ça a commencé à piquer. Déjà pas de neige sur les pistes. Alors que là, on en a déjà, mais on n'a pas les pistes. Les climato-sceptiques qui commencent à faire la gueule. Et ensuite 2020 marqué par le 17 mars, date déjà inscrite dans les nouveaux livres d'école pour les CP. Alors, pour le A, tu fais un rond avec une canne, et si tu fais trop le con avec tes camarades, privé de sortie pendant 2 mois. Alors heureusement, 2020 a eu ses heures de gloire. Bon, pas celle du déconfinement puisque les bars étaient encore fermés. Mais celle de la réouverture des bars, justement. Après tout autre commerce encore interdit après notre permission de sortie. Comme si on avait rajeuni finalement, petit retour à l'adolescence. Puis il y a eu la fête de la musique, et surtout l'été, symbole de liberté. Telle une partie de jambes en l'air non protégée, qu'est-ce qu'on en a profité? Comme des jeunes parents avant l'accouchement, on a tous vécu cet été comme si c'était le dernier. Et heureusement, parce que telle une cuite à 40 ans, on va mettre un moment pour s'en remettre. La note a été plutôt salée. Malgré les boîtes de nuit fermées, on a su s'adapter. Apéro à 18h, sur les tables à 22 et à minuit tous au lit. Finalement, Cendrillon avait tout compris. Puis une rentrée sur les chapeaux de roue, masquée comme jamais, dirait Maître Gims. La France transformée en capitale japonaise et une fête d'Halloween des plus effrayantes. Sans bar ouvert. Et avec pour tout costume, un pyjama. Thème de soirée en vogue ces dernières semaines. Alors quand je regarde derrière moi et que je vois 2020 qui me fait un gros fuck, et que je vois 2020 qui me fait coucou au loin d'un flou beaucoup trop artistique, je m'accroche. Et je prie pour que ça passe vite et je garde espoir en 2022. Parce qu'après être retombée en adolescence, je compte les jours comme une enfant. Je me dis qu'à cette vitesse-là, si on continue à remonter le temps, je serai peut-être plus là en 2022. Mais je me dis en même temps, est-ce que ça serait pas si mal finalement ? Et je réalise que finalement, les médiums fous et les films avant-gardistes avaient peut-être raison. 2020, c'est peut-être finalement la fin du monde, ou du moins le début d'un autre. Alors, pour répondre à Obispo et Natacha Saint-Pierre, si on devait mourir demain, eh bien, j'utiliserais les mots de Corneille. Je dirais qu'il faut vivre chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient déjà de putain de mois. Bienvenue en 2021. Dans ce 21e siècle, l'ère des virus beaucoup trop intelligents qui préfèrent attaquer les gens aux heures de possible épanouissement.
Merci Kelly pour cette chronique extrêmement drôle qui reprend des titres de musique. On va passer maintenant à la lecture à l'encre bleue sur un répertoire scolaire de Catherine Heilmann, donc, que nous avons la chance de recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur ton travail d'écriture, comment ça t'est venu?
Bah, en fait, c'est simplement pendant le... c'est juste pendant le confinement, j'ai repris tous les brouillons que j'avais écrits depuis des années. Et puis voilà, j'ai trié tout ça, j'en ai jeté plein. Et puis j'ai recoqué comme j'ai pu, quoi, comme je m'ennuie un peu. Et puis voilà.
Et tu vois, on transforme l'ennui en joie. Et en tout cas, ça me fait très plaisir que tu sois là aujourd'hui. Et je vais commencer par lire ce texte.
Ouais.
Très beau. Et voilà.
Et merci beaucoup.
Et très intuitif.
Oui. Autant de tics que l'autre hôte, authentique, il a. Autant d'amants que l'un d'ici-bas. Elle a, si l'indécis avait su ça, aurait-il cru cela? Si, sans ça, aurait-il eu du succès à savoir ça? Eh oui, il a cru savoir, ou su croire. Et comme il était bonhomme, il a raconté partout l'histoire de sa pomme de mer nouvelle qu'elle était devenue. Lui sait qu'il est l'odeur des champignons mousseux, des bois, celle des fromages bleus sur les plateaux de bois. Pourtant, il aime être amoureux, à la folie, de sa mie, lui dit des mots gentils. Et toi, assise devant eux, te tais, t'étais, aux joues rougies d'effroi, sous les toits d'un soleil lumineux, la voix lactée, le timbre affranchi, engouffré, dans un style maladroit. La paresse est une faiblesse pour beaucoup, parce qu'elle est douce, fragile, comme un ours en peluche de mousse. Elle attise l'action prochaine, instruit en profondeur de richesse intérieure. À l'ennui s'ensuit l'imagination, au rêve s'essuie le désarroi d'être resté là, sans lever le petit doigt.
Demain, on va revoir les heureuses qui donnent. Et moi, je pardonne à celles qui m'ont offensée, comme Dieu le Père impuissant l'avait fait. Heureusement, la guitare accompagne et se fait huer par une foule invisible, imprévisible. Vie et vue, voit le vent voler, vivant vers les volets verts et violets, comme une nonne, bonne nonne, conne, donne des pommes aux hommes. Une louve rouge bouge, son homme la couve. En son ventre, un petit loup dort, en mémoire, en son corps. Il arrivera bientôt à son port, lorsque la lune lui radoie. On a droit au respect d'être aimé. On a droit au respect d'être humain. petite fable. C'était il y a très longtemps, dans un immense château. Un gars s'était pris un râteau, en plein dans les naseaux. La princesse héritière lui donne un baiser sur le nez et promit de revenir l'embrasser au prochain coup de pied. Oh. Oh.
Seul. Prêt. Enfin. Là, cela n'a pas d'importance. Lent, se lâchent les tripes du cœur pour les tanner en ceinture de sécurité. Pour la serrer, pour se sevrer, pour arriver au bord du fumet vers le salon, odeur de saucisson chaud et de marron glacé. Larmes et se laver. Une goutte de rosée, je te la donne, t'adonne au meilleur sentiment. T'effraie quand la lune, dansant avec le soleil, rafraîchit les humeurs novatrices, inspiratrices. Garde la tête un peu droite pour regarder les gens et fais-leur un bisou, mentalement. Parle aux étoiles et elles te remercieront en clignant des yeux. Toutes ces lumières au loin qui scintillent, toutes ces étoiles brillent, se noient dans l'horizon pour faire un tableau en béton.
Il est temps de montrer. Il est temps de monter au sommet des métiers. Il est temps d'espérer d'autres lieux adorés. Il est temps, tant de chemins à explorer. Tant de temps pour savourer une vie heureuse et diversifiée. La paresse est une faiblesse, pour beaucoup, parce qu'elle est douce, fragile. Comme un ours en pluche de mousse. Elle attise l'action prochaine, instruit en profondeur des richesses intérieures. À l'ennui s'ensuit l'imagination. Au rêve s'ensuit le désarroi d'être resté là, sans lever le petit doigt.
Imagine l'air d'un monde imaginaire, l'air pur, tel de l'eau claire, l'air brut, non respiré, l'éther, blancheur sauvage, la neige aussi sage, brille lorsque le soleil la voit, sans pas, qu'un oiseau, qu'une goutte d'eau, ou qu'un chat, l'ont emprunté. Il n'est pas permis de ne rien ressentir devant le spectacle si vivant de la tendresse. Un soir, un Loir voulut aller voir les châteaux de la Loire. Il s'habilla tout de noir. Pour croire en cette histoire, on cherche dans sa mémoire les souvenirs du passé, les rois, les valets, dans des châteaux retapés, visités par le Loir, aux moustaches colorées, pour l'occasion rêver d'un voyage imaginé. Des millions d'yeux, des millions d'ions, des millions d'ondes nous assaillent.
L'indifférence a payé. Elle s'est rangée dans un tiroir et l'a fermée. Si quelqu'un l'ouvrait, il trouverait des stylos dedans.
elle, serait partie tout au fond. Aurait trouvé un pont menant à une rivière avec une clairière à l'horizon. Aurait senti la chaleur du soleil et ne serait jamais revenue. Ne serait jamais revenue. Ne serait jamais revenue dans le tiroir puisque personne ne l'aurait ouvert de toute façon. La musique bruisse sur le mont. L'acoustique crisse sous les bombes. Quand la vie crispe les esprits. Que l'argent attise les paparazzis. Le stress apporte les soucis. Les mots fusent sans faire de bruit. Doucement. Comme les grains de riz d'un mariage entre deux amis. Les mots, les dos, les là, les si. L'entêtement parle au présent qui lui répond non. Alors il écrit des oui dans des cahiers interdits.
La pente est descendue. Remontons, là, remontons. Le silence, le tic-tac de la chance qu'on saisit à l'aube d'une renaissance. La flûte, enchantée, qu'on embrasse. Son bec, et que des doigts touchent, les trous de son dos allongé donnent des airs doux, sensibles, adaptés aux mélodies calmes, cherchant à travers l'art la pureté, la perfection et l'amour.
Le gruyère de la terre a disparu, ne laissant que ses trous vides de sens. Et le sang s'agglutine au-dessus de la plaie, puis sèche. Et une croûte terrestre se forme, puis tombe, et la cicatrice reste à vie, mais s'estompe petit à petit. Laissons les gens heureux, 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 heureux. Heureux. Heureux.
Voilà, on arrive presque au bout de cette émission. Merci pour ces textes magnifiques, Catherine. C'est vraiment magnifique. Moi, je trouve ça une synesthésie. Il y a vraiment quelque chose de très beau dans ton écriture. Tu mélanges des sensations, de la matière. C'est très beau. Moi, je t'invite à continuer. Je lirai d'autres de tes textes si tu me fais confiance et si tu continues à venir vraiment quand tu veux. On va faire un petit tour de table. Puis après, je vous lirai un dernier texte de Fabien. Qui n'invite pas du tout à la violence. Voilà, on va se dire donc au revoir. Merci Kelly Espalargas pour ta toute
Merci
première
d'avoir
fois.
Vu,
Avec plaisir, vraiment.
Et pour tes lectures, c'était vraiment drôle. Tu m'as bien fait marrer avec Raoult. Voilà, merci Fabien de ta présence et de ton écriture.
C'était un grand plaisir de faire quelque chose d'aussi vivant en cette période. Mort-vivante, on va dire.
C'est partagé.
Morbidante.
Morbidante, morbidante.
Ouais. Morbihan.
Vidante un peu aussi.
Vibrante.
Vibrante.
Vidante. Ouais. Et merci Trevor pour la technique et la musique.
Ouais, merci. Et les bonnes ondes.
Et les bons 102.2, hein, Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et on va se quitter comme un 1er mai.
Avec du muguet.
Au programme. Ce matin, autour du petit déjeuner, expliquer à ma fille qu'aujourd'hui, c'est jour de manifestation. Qu'aujourd'hui, c'est jour de fête. Qu'aujourd'hui, tous ensemble, nous allons pendre les patrons. Puis, vider le préfet de tout son sang pour en faire du boudin. Tout ça dans une ambiance très cool. Lui expliquer qu'elle aura droit à sa merguez frite si, et seulement si, elle se comporte bien. Voilà, la semaine prochaine, nous serons avec Pauline Picot. Cool. Si tout se passe bien. Ouais, trop cool.
Ah, bien.
Ouais, grave. Et ben, je vous dis très très bon week-end et à très bientôt sur Radio Canu.
Poésie chronique.
Contre les boutons et les points noirs, la solution, c'est d'avoir
un parti comme le nôtre, qui est un parti éminemment démocratique.
Ah, c'est Visir.
Visirette diffuse Visir, cure du linge. Avec ses agents désincrusteurs, il liquide la saleté la plus tenace.
Poèse et chronique.